Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Aujourd'hui, à partir de 12h55, une anthropologue prix Joseph Kessel, un prix qui souligne la singularité de sa démarche et de sa personne. Nastasia Martin sera avec nous à l'occasion donc de la réception de son prix pour ce livre « Croire aux fauves » sorti l'an passé, ce premier récit. Elle nous parlera aussi d'une anthropologue dont les travaux l'ont beaucoup marqué, Anat Singh. Elle signe la préface de son livre qui paraît à la découverte, « Friction ». Mais d'abord, Marius Geoffrey et Guillaume Tranchant, alias Gringe. L'un est écrivain en herbe, l'autre rappeur, en duo avec Aurel San ou en solo. Quand il sort Enfant Lune, son premier album à lui, deux expériences de la psychiatrie qu'il nous raconte dans deux livres. Le premier, Le Fumoir, qui paraît aux éditions Anne Carrière. L'autre, Ensemble, on aboie en silence. C'est chez Wagram Livre, Harper Collins. Ils sont là tous les deux avec nous. Bienvenue à eux.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour à vous, Marius Geoffrey.
Bonjour, Olivia Gesbert.
Et bonjour à vous, Gringe.
Salut, bonjour.
Je dis Guillaume.
Ouais, comme vous voulez.
Bah non, c'est vous le chef, ici. Ça concerne votre identité, en tout cas. Chaque année, 100 000 personnes sont internées en France. Ce sont les premiers mots de votre livre, Marius Geoffrey. Ce livre leur est adressé et il vous est adressé à vous aussi. C'est aussi un livre de la reconstruction. Pendant 18 jours, vous avez fait partie des oubliés, des invisibles, du monde libre. Vous basculez en quelques minutes dans un monde clos, un monde où la justice vous enjambe. Le livre fait le récit de ce moment et des jours qui ont suivi. Que s'est-il passé ?
Dans les jours qui ont suivi ?
Non, ce moment de bascule. Comment êtes-vous arrivé dans ce monde clos que vous racontez ?
Alors, tout part... En fait, j'étais assis à la terrasse d'un café, donc sur la place des Vosges, et je me sens mal. J'ai beaucoup bu, je suis très triste. Et de là, donc, mon frère m'accompagne aux urgences de Sainte-Anne. Donc moi j'y vais sans sourciller, sachant que je fais totalement confiance à la médecine à ce moment-là et à la psychiatrie, surtout que Sainte-Anne c'est une institution mondiale. Donc de là on m'invente en fait une maladie qui s'appelle le syndrome de Korsakoff, et deux psychiatres qui se sont mis d'accord, le psychiatre de la nuit et celui du matin, se mettre d'accord pour un mensonge, dans le sens où c'était impossible que j'aie cette maladie, puisque c'est une maladie qui survient en général à l'âge de 70 ans et encore après des décennies et des décennies d'alcoolisme. Donc tout part de là et on m'envoie directement à l'hôpital Henriet, et c'est là où tout ce récit, cette odyssée en psychiatrie commence.
Écrire ce livre était salvateur. Commencer avec la dernière phrase du livre, je ne sais pas si ça se fait, mais vous écrivez, Marius Geoffrey, « Un matin, j'ai commencé à écrire ce livre. Si je le terminais, ce serait la preuve que ni l'asile ni l'alcool ne m'avaient détruit. » Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va très bien.
Grâce à ce livre aussi ?
Grâce à ce livre aussi, grâce au piano. J'ai beaucoup joué Chopin, comme je le cite dans le livre. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Comme je raconte également dans le livre, ce fut une expérience très difficile à l'intérieur de l'asile, mais aussi à l'extérieur.
Quelques jours seulement dans cet asile, pas une vie tout entière, et pourtant...
Et pourtant, 18 jours, quand vous ne dormez pas, quand vous faites des attaques de panique à répétition, et quand vous jouez la comédie pour ne pas en reprendre davantage, c'est très très long, je peux vous l'assurer. Et j'ai eu beaucoup de chance, car la plupart des gens restent beaucoup plus longtemps que moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents, contrairement à certains, qui ont pu faire du forcing pour que je puisse sortir de cet enfer, parce que cet hôpital est un vrai enfer, oui.
Et le regard de la famille, dans un sens comme dans l'autre, est important. Vous le racontez tous les deux dans vos livres. Juste encore un mot sur votre père, Régis Geoffrey, puisque vous en parlez, Marius Geoffrey. Et Dieu sait qu'on l'adore ici à la grande table, l'écrivain qu'il est. En tout cas, il a fait dans ses livres l'exploration de cette folie ordinaire, des névroses, de la cruauté. C'est quand même des thèmes qui sont très récurrents dans ses romans à lui ou dans ses fictions, comme dans ses micro-fictions. Votre premier livre à vous porte sur votre propre folie, en tout cas ce qui a été considéré comme tel. C'est étrange, c'est une sorte d'ironie du sort ou pas ?
Alors c'est une ironie du sort, sachant que j'aurais très bien pu publier un roman total, mais j'ai préféré publier un roman de non-fiction qui racontait cette expérience, et je suis très très heureux que ce soit mon premier livre, car je me sentais un devoir absolu d'écrire sur cette ce problème qu'on a en France avec l'internement à la demande d'un tiers. Et je dédicace ce livre à tous les gens qui sont enfermés, et qui n'ont peut-être pas et qui n'auront jamais la parole. J'ai essayé de leur donner un petit peu la parole, et j'espère en être un minimum digne.
La maladie de votre frère Gringe, c'est une expérience de l'HP, un vécu que vous transformez en expérience littéraire, tous les deux. Intégrer des voix imaginaires au processus d'écriture, c'est ce que vous allez devoir réussir à faire. Ce livre, est-ce qu'il vous a rapproché, votre frère et vous? Est-ce qu'il a été clairement écrit à quatre mains, vous le diriez comme tel?
Oui, il a été écrit à quatre mains, avec le consentement de mon frère, de manière fluctuante, quoi, des consentis parfois. De manière poussive aussi, il a fallu que je le rassure énormément, mais il a été écrit à quatre mains sans son concours. Le livre, enfin, j'aurais jamais pu voir le jour. Il m'aurait manqué tellement de matière. Moi, le regard que je porte sur mon petit frère, sur sa pathologie qui est la schizophrénie, c'est ce que j'en comprends. C'est parce que il y a aucune vérité, je pose aucune vérité, aucune expertise, aucune vérité absolue dessus. Donc il fallait vraiment qu'il m'ouvre ses portes. Mais c'était à son bon vouloir, ça a été un des grands challenges de ce bouquin.
Il était réticent au départ à livrer ses mots, il craignait le risque d'intrusion. Est-ce que ce livre lui a aussi fait du bien?
J'ai le sentiment, pour l'instant, et tant que ça dure c'est super, il l'a lu. Il a attendu que le livre sorte pour le lire. Il l'a lu quasi d'une traite. Et il m'a expliqué avoir trouvé le livre poétique dans son ensemble, conforme à ce qu'il avait pu vivre. Ça, c'était pareil. Mon frère, c'était la douane, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que, à partir de ses témoignages, de ce qu'il acceptait de me livrer, de ses secrets, que je brode autour ce fameux récit littéraire. Il fallait que je... Voilà, moi je transpose, je m'imagine à sa place dans les décors qu'il a pu traverser et raconter les visions auxquelles il a été sujet. Enfin, du coup, je suis ravi. Pour l'instant, il est stimulé par ça, renarcissisé beaucoup. Ça, c'est la vraie récompense.
Renarcissisé, ça veut dire que ça fait du bien.
Je pense aussi. Que ça lui fait du bien, ouais, à un moment donné.
À l'ego d'être le héros d'un livre et d'une fratrie, peut-être aussi.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, on entre aussi dans votre tête à vous. C'est votre analyse aussi un petit peu qui se fait de quel frère vous êtes, de cette relation filiale que vous avez, fraternelle, pardon, que vous avez tous les deux.
Ouais, aussi, bien sûr. Il a fallu. Je pense que c'est l'exercice de. C'est ce que permet l'exercice d'une. Quelque chose d'autobiographique, d'un récit un peu autobiographique, c'est de se revivre et de se regarder du haut de son passé, de se dire ok, voilà ce qu'on a traversé pour en arriver là, toutes ces épreuves qui ont fait ce que nous sommes, moi et mon frère, quoi, dans notre relation. C'était nécessaire de le faire pour comprendre aussi la pathologie de mon frère et le grand frère que moi je suis face à ça, quoi.
Comment le décrire, le raconter, votre frère Thibaut?
Ça, c'est compliqué. Comment le raconter? Il est fascinant. Bah, il me fascine parce que il est difficilement sondable, qu'il a une espèce d'univers intérieur très très riche, que c'est lui, généralement, qui me fait découvrir tout un tas de choses. On partage certaines références cinématographiques surtout, musicales, mais c'est lui qui m'amène à sortir de mes petites zones de confort, de petit rappeur tout pourri que je suis, et qui m'emmène ailleurs, quoi. J'ai une chance incroyable d'avoir ce frère.
L'Enfant Lune, ce frère, vous l'aviez déjà mis en musique. On écoute.
Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler. On a poussé au cœur du magma. Tous les moyens étaient bons pour gruger. Et maman qui jouait le rôle de papa montre aucun signe de faiblesse, soit précoce. L'école nous enferme, bien sûr qu'on décroche. C'est donnant, donnant, violent, violent. Je sais c'est dur, accroche-toi de toutes tes forces. Ici c'est gagner le respect sans dire merci. Baiser les règles et faire jouir cette vie. Quand violence fait loi, le climat se dérègle. Là où l'aveugle est roi, le témoin est bègue. Sûrement qu'on manquait peut-être d'un cadre, mais fuck les mises en garde, on se fout de leur avis. Moi je m'étonne même plus quand tu pètes un câble, sans capter que tu peux y laisser ta vie. Mais ce soir il a suffi d'une fois, d'un mauvais trip, un mauvais mélange, pour que les drogues de synthèse te foudroient. Et que tu t'en ailles tutoyer les anges. Cerveau disloqué, convulsion hardcore, et plus personne à bord pour piloter. Juste tes potes te ramènent à la maison, mais trop tard pour qu'on te ramène à la raison. La chair de ma chair s'en est allé dans des régions trop sombres. et je découvre ce putain de scanner qui nous parle de tes lésions profondes. Impossible de vivre normalement, j'ai volé le sourire de la Joconde et je crois que plus rien ne sera jamais comme avant. Elle s'est envolée la
blessé
colombe.
Blessé à mon bousillé le crâne, mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes pour t'aider à retrouver le calme. Que le mauvais sort nous épargne, j'y laisserai corps et âme. Je dois sécher tes larmes.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Verdict est tombé, t'entends des voix, tu parles seul, ton cerveau sature et tu t'isoles pendant des mois. Puis ça fait maintenant 15 piges que ça dure. Dans ces hôpitaux que la javel embaume, tu déambules dans les couloirs comme un fantôme. Des chambres sordides en chambres sordides, ton esprit renferme un coffre fort vide. J'en fais des cauchemars, ils me tordent l'âme, réveillé la nuit par mes propres larmes. Mais qu'est-ce que je peux faire à part fixer le plafond, pleurer en silence et demander pardon. Toi dans ton coin qu'enchaîne soin sur soin, tes allers-retours sont comme à la prison. Moi dans mon coin, je roule joint sur joint, je me soigne au pilon, mon regard en dit long. Si je te rejette, c'est que je me sens désœuvré. L'impuissance me pousse à mettre des œillères. Réaction de lâche, je suis désolé. Tu puisses à peine compter sur ton seul frère. Et plus tes crises de folie prennent de l'ampleur, plus tes silences sont des lames qu'on m'enfonce dans le cœur. Mes chocs émotionnels dans l'ascenseur, les deux mains sur les oreilles quand maman pleure. Et personne comprend pourquoi je suis blessé, pourquoi j'ai la gueule d'un avis de décès. Les souvenirs me hantent, je nous revois gamins, deux frères soudés comme les deux doigts de la main. Ma vie est la tienne, frère, sèche tes larmes. Non, je connais personne de plus courageux. Et quand la solitude nous désarme, on fait comme on peut, on serre les coudes
blessé
à deux.
J'ai le crâne, mais si je dois sécher tes larmes, j'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes pour t'aider à retrouver le calme. Que le mauvais sort nous épargne, j'y laisserai corps et âme, je dois sécher tes larmes.
L'impuissance d'un frère, l'incompréhension, la blessure, tout était déjà là dans cette chanson. Hein.
Ouais.
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 Mais dans le livre, vous allez plus loin.
Oui, parce que c'est, la, ouais. C'est ce que offre l'espace d'expression d'un bouquin, quoi. On peut aller partir tout azimut et explorer différentes pistes, quoi. Le morceau raconte juste le moment de bascule. Voilà, très dur, très anxiogène, sans espoir. Le bouquin, je le vois plus optimiste, quand même.
À l'origine, il y a deux trucs qui font pas vraiment du bien. La drogue, d'un côté, pour votre frère, l'alcool, pour vous, Marius Geoffrey. On se dit que l'expérience de l'hôpital, ça devrait être celle de la guérison, de la protection. Au lieu de ça, ça va être la chimie plutôt que la parole, la camisole plutôt que l'échange. On en est encore là, en France, au XXIe siècle, Marius Geoffrey.
Oui. Alors il faut savoir que n'importe quel patient qui rentre en hôpital psychiatrique se voit administrer du Largactil. C'est ce qu'on donnait aux dissidents russes. C'est un neuroleptique très puissant.
Vous écrivez pour que l'ordre règne, c'est la molécule idéale.
Oui, car ça annihile complètement la personne. Et si vous voulez, les gens se tiennent à carreau et ne font pas d'histoire. Simplement, c'est quelque chose qui empêche totalement de penser, et vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes un corps, mais votre esprit vous a quitté quelque part. Et vous êtes encore plus enfermé, si vous voulez. Vous êtes déjà enfermé entre ces murs, et puis on essaie de vous enfermer complètement dans votre tête, en fait. De griller votre cerveau, si j'ose dire.
Visiblement, on le bourre de sédatifs plus qu'on ne le soigne, écrivez-vous, Gringe. Parce que vous n'êtes pas là au moment où tout ça se joue derrière les murs de l'hôpital. C'est un monde clos, comme le disait très bien Marius Geoffrey. Hein. Un monde qui n'est plus un monde libre, un monde qui n'a plus les mêmes règles que le monde extérieur. Vous évoquez aussi l'expérience terrible de la sismothérapie. Est-ce que ça a pu entraîner chez lui? Racontez-nous.
C'est difficile à raconter ça, parce que c'est quelque chose que je vis éloigné de lui. Je suis à l'autre bout de... Enfin, il vit ça à Montpellier. L'hôpital de Montpellier. Moi, je suis sur Paris à ce moment-là, et donc c'est les discussions qu'on a en amont avec les parents. On se dit, on a un peu tout essayé. On sent Thibaut hyper éprouvé parce qu'il vit fatigué. Et on nous parle de sismothérapie en nous expliquant que ça peut avoir peut avoir des résultats positifs sur le la paranoïa aiguë, sur le donc on propose cette alternative à Thibaut, mais on est un peu paumé quoi à ce moment-là. On nous explique que c'est plus du tout ce que c'était à l'époque, elle se fait sous curare, sous anesthésie générale, que c'est des micro décharges, voilà, enfin c'est tout un truc qui nous terrifie. En même temps, on sent Thibaut dans une telle souffrance qu'on lui pose aussi la question quoi, est-ce qu'on tente ça? Et au bout de sa troisième séance, quoi, il décompense complètement. Et c'est là qu'il m'appelle en pleurs, en me demandant de venir le chercher, quoi. Mais il est en HDT à ce moment-là.
L'hôpital est ou devrait être un refuge, le lieu où vous êtes protégé des autres et surtout de vous-même. C'est d'ailleurs le motif mis en avant hein, dans le cadre d'un internement et surtout d'un internement sans consentement. Marius Geoffrey, pouvez-vous nous lire quelques lignes du livre de Gringe, coécrit donc avec son frère, indirectement ou directement, ce livre « Ensemble, on aboie en silence » où justement Thibaut, votre frère, Gringe, raconte son internement.
Je suis fou. Je n'ai pas le droit à la liberté. J'ai le droit au pardon. Quand on enferme quelqu'un, on l'enferme jusqu'au fond. À chacun sa morale. Avec ou sans Dieu, j'ai besoin d'aide. J'ai fini en HDT. La punition miracle causée par le remède miracle, la sismothérapie. Les médecins me droguent. Je leur raconte mon sens à terme et à raison de la survie. Je les énerve, je crois. Je crois que je leur fais peur. La chute sera grande. Plus beaucoup de choix pour me libérer. L'homme médecin, blouse blanche, me saigne à blanc. Car lui non plus ne peut sortir d'ici. Ses vices. Une peur qui vient de craquer, blessée, je lui inflige mon désir de croquer la vie. En quelle raison impossible ma furieuse envie d'y rester va me perdre et me permettre de faire le pire. HDT. Mes menaces à voix haute proférées dans ma chambre ont réveillé le doute quant à une crise plus grande dans le regard de ma doctoresse. Une psychiatre, une lâche qui se permet de m'envoyer en HDT pour garder sa clinique en main propre. J'ai crié trop fort. La sismothérapie, électrochoc sous anesthésie générale. Je n'ai pas eu conscience de mon sommeil, du début jusqu'à la fin.
Extrait du livre de Gringe. Ensemble, on aboie en silence. Merci Marius Geoffrey pour cette lecture. 12 jours, c'était aussi le titre du film documentaire réalisé par Raymond Depardon, sorti en 2017 et qui faisait allusion dans son titre au délai introduit par la loi concernant l'internement sans consentement. Cette double expérience que vous racontez l'un et l'autre se double aussi de mots qui blessent, de mots qui rabaissent, de mots qui humilient dans ce monde où le psychiatre règne en maître, en haut de la hiérarchie. Je comprends que seul le roi soleil doit briller ici, écrivez-vous Marius Geoffrey, je suis juste un satellite qui ne peut pas choisir sa trajectoire. Thibaut aussi évoque, lui, ce climat terrible, je suis fatigué d'être fatigué, et par-dessus tout j'en ai assez de cette atmosphère inexacte, maladive et abrutissante, assez des médecins avec leur style de prophète, à la mort moelle-neu et t'auras le paradis dans l'os, je n'ai plus rien à vivre ici. Infirmier, patient, Michel Foucault revenait sur ce couple étrange aussi dans cet autre monde.
En principe, dans un hôpital, ne devraient s'exercer que des rapports de connaissances. Et en fait, ces rapports de connaissances sont entièrement sous-tendus par des rapports de pouvoir. Et la situation de l'infirmier, surtout de l'infirmier psychiatrique, est très très ambiguë. Parce que d'un côté, il y a en quelque sorte le modèle du personnage médical. Et l'infirmier peut très bien n'être qu'un relais de ce pouvoir médical. Être le petit médecin qui surveille non pas simplement au moment de la visite, mais du matin au soir et du soir au matin, et qui par conséquent peut rendre, s'il reprend en effet à son compte le personnage médical, peut rendre la vie du malade mental encore plus infernale. Bon, mais d'un autre côté, l'infirmier sait très bien, et il éprouve ça quotidiennement, qu'il est l'objet des ordres médicaux, presque autant que le fou. Le malade et l'infirmier sont ceux sur quoi s'exerce le pouvoir médical.
Voilà un petit peu de raison ou d'analyse dans cette cour des miracles. Marius Geoffrey, les blouses blanches prises dans un système déshumanisant. Il ne s'agit pas d'inverser le regard et d'altérer votre ressenti aussi par rapport à tout ça. Mais ce qui est fou, c'est ce que ce monde crée finalement. Hein, jusqu'à la censure que vous évoquiez, cette espèce de censure permanente qui fait qu'on ne doit pas montrer ses faiblesses, ce qui paraît complètement fou et contradictoire. Là, pour le coup.
Oui, exactement. C'est-à-dire que le comportement normal quand on vous enferme alors que vous n'avez rien fait, c'est de crier, de hurler. Et si vous adoptez ce comportement, vous allez être tout de suite attaché, sanglé. Et le comportement anormal que moi j'ai eu, c'est-à-dire jouer la comédie, faire le bon garçon, c'est un comportement totalement anormal. Quelqu'un qui viendrait et qu'on enfermerait et qui dirait « oui, attachez-moi et enfermez-moi pendant des années », ce serait peut-être quelqu'un justement à interner, parce que là c'est très grave. Donc un comportement normal est totalement est réprimé comme un comportement répréhensible. Donc c'est-à-dire que il faut jouer absolument la comédie. Moi par exemple, dans, j'explique dans mon livre, j'ai eu beaucoup d'attaques de panique lors de mon séjour et je ne laissais rien transparaître parce que sinon je savais que j'allais en reprendre pour 6 mois.
Jouer la comédie pour pouvoir en sortir.
Exactement.
Mais aussi dans la vie, Gringe, jouer la comédie, accepter d'être acteur de sa vie, accepter sa part de différence, être anticonformiste jusqu'au bout, ne pas se conformer. C'est peut-être ça la leçon de cette histoire, pour l'instant.
Ouais, ouais, parce que c'est aussi ce que
leçon je... Leçon transitoire.
Ouais, ouais, mais c'est aussi ce que je perçois à travers le chemin qu'emprunte mon frère, quoi. C'est fait tout dans des élans de liberté, alors parfois exacerbé, parfois en fusion avec les voix qu'il entend, et parfois on part tous les deux, quoi. C'est comme ça que je le vois, quoi. Je le vois libre.
Et vous avec?
Et moi dans son sillon. Ouais, on est de façon de tous les, on partage cette sensibilité commune, quoi. C'est on est effectivement, on évolue hors du temps tous les deux. C'est comme ça qu'on se retrouve parfaitement, qu'on distord le temps. On a notre fuseau horaire à nous qui nous appartient et on est deux contemplateurs, quoi.
Oui, vivre dans un éternel présent. Voilà ce qui nous lie, Thibaut et moi, c'est notre privilège. Évoluer sur une même échelle de temps, ensemble ou séparément. Marius Geoffrey, qu'est-ce que cette expérience a fait, vous a fait dans votre rapport au temps, à vous?
Alors, au niveau du temps, c'est vrai que durant cette expérience, comme je ne dormais pas la nuit, si vous voulez, ça a rallongé un petit peu mon temps de présence. Et j'ai maintenant conscience qu'en réalité, selon votre état, le temps peut passer très très vite ou très très lentement. Et il faut essayer, c'est très difficile, mais de profiter quand même du temps qu'on a, et du temps qu'on a en étant libre, parce que c'est pas du tout on est dans une démocratie, donc on est censé être libre, mais tout le monde n'est pas libre. Il y a des gens en prison, il y a des gens qui sont, comme je le dis, incarcérés dans un asile et qui ne peuvent pas en sortir et qui n'ont pas la parole. Et donc, quand vous avez la parole, quand vous êtes libre, il faut toujours se souvenir qu'il y a des gens, en France ou ailleurs, qui n'ont pas cette liberté, et puis essayer d'en profiter, même si c'est difficile, même si il y a des jours où on a envie de rester dans son lit et où on est dans la plus grande des primes. Mais il faut essayer de faire quelque chose de ce temps-là, autant qu'on puisse le faire, en tout cas.
Il y aura un deuxième livre pour vous, Marius Geoffrey?
Évidemment.
Et pour vous, Gringe?
Oui, certainement aussi. Ouais.
C'est une expérience qui ne s'arrêtera pas là. Voilà, vous racontez aussi tous les deux dans ces livres ce que c'est qu'être fou ou différent en France aujourd'hui, dans nos sociétés, ce que c'est qu'être au banc de la société, cette idée de cacher ce fou qu'on ne saurait voir. Vous racontez tout cela avec beaucoup de subjectivité, avec beaucoup de jeu, de personnel, et c'est très très beau et très touchant, vos deux livres. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour partager cette
Merci
expérience.
Beaucoup.
Merci mille fois. Avec nous, notre partenaire du Nouvel Observateur qui nous a rejoint comme un jeudi sur deux, c'est la chronique littéraire de Grégoire Le Ménager.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
L'Obs pour les intimes, Grégoire Le Ménager, bonjour.
Bonjour.
La dernière fois, c'était il y a 2 jeudis, vous nous parliez de la première sélection du Goncourt et du choix d'y faire figurer Yoga d'Emmanuel Carrère. Fiction ou pas fiction, l'affaire rebondit en tout cas, et vous revenez aujourd'hui sur l'accusation de mensonge portée à son encontre par l'ex-femme de l'auteur.
Oui, ben, je vais peut-être vous paraître un peu obsédé par Emmanuel Carrère, mais il se trouve que pas mal de gens ces temps-ci sont obsédés par Emmanuel Carrère, à commencer par son ex-femme, la journaliste Hélène Devinck, dont Vanity Fair vient de publier un véhément droit de réponse à yoga, un texte très intéressant qui a été brillamment analysé par ma camarade Elisabeth Philippe dans un papier que je vous recommande sur bibliops.com. Alors, que reproche Hélène Devinck à son ancien mari? Deux choses, principalement. Un, de l'avoir utilisé dans yoga sans son accord. Deux, de mentir à ses lecteurs en injectant de la fiction dans une autobiographie. Bon. À première vue, la situation est claire, elle le dit d'emblée. Emmanuel et moi sommes liés par un contrat qui l'oblige à obtenir mon consentement pour m'utiliser dans son œuvre. Je n'ai pas consenti au texte tel qu'il est paru. En gros, elle acceptait qu'il utilise son intimité tant qu'il s'aimait. Elle le refuse maintenant qu'il l'a trahi avec une autre et qu'ils ont divorcé. Elle ne veut plus être un personnage de Carrère, ni dans sa vie, ni dans son œuvre. Elle n'est plus un personnage en quête d'auteur, elle est un personnage en quête de silence. Elle veut qu'on lui foute la paix. Franchement, on la comprend. On la plaint même du fond du cœur, Hélène Devinck, le sentiment de trahison est peut-être un des plus destructeurs qu'on puisse éprouver. Et que cette trahison se matérialise en plus dans un livre lu, encensé partout, déjà vendu à 160 000 exemplaires, sélectionné pour le Goncourt, ça a de quoi démultiplier la douleur jusqu'à la rendre insoutenable. Surtout pendant que Carrère, lui, enchaîne les interviews pour raconter son propre martyr. Donc la morale, en gros, elle semble du côté d'Hélène Devinck. Le problème, c'est évidemment que la littérature et la morale ne s'entendent pas très bien dans ce genre d'affaires. C'est l'éternelle question posée par l'écriture de soi. Comment se raconter sans parler des autres, qui n'ont souvent rien demandé, et surtout pas à se retrouver dans un livre. C'est toujours violent de se retrouver dans un livre. Tout semble déformé, réducteur, on ne se reconnaît jamais. Souvenir des souffrances causées par Christine Angot, Édouard Louis ou encore tout récemment Raphaël Antoven. Et pourtant, yoga reste assez singulier dans cet univers-là, parce que ce n'est pas un règlement de compte. Il y a sûrement une bonne dose de perversité dans le narcissisme de Carrère, qui décrit avec ravissement de merveilleuses copulations avec une autre femme que la sienne, mais on ne peut pas dire qu'il accable ou attaque la malheureuse Hélène. Il l'a tenté dans une précédente version, dit-elle. Mon personnage était exposé dans une fantaisie sexuelle accompagnée de révélations indésirables sur ma vie privée, c'était désobligeant. Carrère a fini par couper cette scène désobligeante à sa demande. Et à l'arrivée, le livre auquel elle reproche de l'utiliser, Hélène Devinck, qui brille surtout finalement par son absence. Son prénom n'apparaît qu'une fois dans une citation d'un précédent livre de Carrère. Alors, que lui reproche-t-elle? De l'avoir utilisé ou de l'avoir escamoté, par exemple en occultant qu'elle lui a beaucoup rendu visite à l'hôpital? D'en avoir trop dit sur elle ou au contraire d'avoir menti et maquillé les choses pour respecter leur contrat? À l'arrivée, on ne sait plus très bien. Elle le dit elle-même, si elle sort de son silence en dévoilant au passage son identité au grand public, c'est pour combler la fameuse ellipse narrative qui se trouve au cœur de yoga. Alors, ce paradoxe-là est cruel et Frédéric Boyer, le patron des éditions POL, a beau jeu de lui répondre ce matin dans le livre Hebdo, Carrère a été contraint de faire des mensonges par omission, il a donc eu recours à une part de fiction. Alors oui, tout ça est cruel, et d'autant plus cruel qu'il est possible que cette contrainte-là, en incitant Carrère à théoriser très finement sa démarche à l'intérieur de yoga, l'ait conduit à accoucher d'un livre plus complexe, plus troublant, plus virtuose, plus vertigineux encore. Yoga est peut-être le livre d'un grand malade, mais c'est un grand livre quand même, sur le métier de vivre qui est parfois si épouvantablement difficile.
Voilà, et yoga est aussi un livre sur la dépression, l'internement, là encore, alors là, pas contre son gré, avec son consentement. Dans l'Obs, cette semaine, les premiers romans, les miraculés de la rentrée, parce que la pandémie a incité les éditeurs à la prudence. Il n'y en a qu'une soixantaine de premiers livres, premiers romans sur cette scène littéraire de cette rentrée, dont les vôtres. Messieurs, merci mille fois à vous d'avoir été avec nous. Ensemble, on boit en silence, Gringe, c'est chez Wagram Livre. Le fumoir, Marius Geoffrey, c'est chez Anne Carrière. Merci beaucoup et merci à vous, Grégoire. À dans deux semaines.
Merci.